Imaginez une société axée essentiellement sur le commerce, avec des ouvriers qui sont rassemblés en corporations, on pourrait dire des sortes de syndicats spécialisés, fonction du métier qu'ils exercent. Il y aurait des corporations de tanneurs, des corporations de teinturiers, de potiers, de tisserands, de boulangers, de cordonniers, etc. Jusqu'ici, tout va bien. Imaginez maintenant que chacune de ces corporations soit rattachée à sa propre divinité. Et non seulement ça, mais imaginez qu'être membre d'une corporation impliquait également de rendre un culte à la divinité à laquelle la corporation est placée. Eh bien, l'esquisse de cette société que je viens de présenter, c'est ce qui se vivait dans la ville de Thyatire. La ville de Thyatire, cette quatrième église à laquelle Jésus s'adresse dans les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Thyatire était connue surtout pour son commerce, plus que pour sa politique. D'ailleurs, à Thyatire, il n'y avait pas, comme à Pergame ou à Smyrne, de culte à l'empereur. Thyatire, c'était surtout le commerce. Elle était placée sur une route commerciale qui jouissait de beaucoup d'échanges commerciaux. Elle jouissait vraiment d'une grande prospérité. Et pour se faire une place dans une telle société, il fallait appartenir justement à l'une de ces corporations de métiers. C'était pratiquement impossible de vivre, de subvenir à ses besoins, de vivre du commerce sans être membre d'une telle corporation. Mais être membre d'une corporation impliquait de rendre un culte à la divinité sous laquelle la corporation était placée. Et ces cérémonies cultuelles, elles commençaient le plus souvent donc par un sacrifice offert à la divinité, elles se prolongeaient par un banquet. Elle se terminait souvent dans la débauche. Et au passage, on mangeait des viandes qui avaient été sacrifiées à la divinité. La Bible parle de viandes sacrifiées à des idoles. Voilà en quelques mots le contexte dans lequel l'église de Thyatire prenait place. Alors, que nous réserve cette quatrième lettre? Et je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 18 à 29, c'est la lettre la plus longue des sept. Et j'affiche ici la traduction. Et à l'ange de l'église à Thyatire, écrit : Voici ce que dit le Fils de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs à commettre l'immoralité sexuelle et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de son immoralité sexuelle. Voici. Je vais la jeter sur un lit dans une grande tribulation, elle et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises reconnaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous autres qui êtes à Thyatire, vous qui n'avez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, à vous je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Néanmoins, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations et il les dirigera avec un sceptre de fer, comme sont brisés les vases d'argile, comme moi aussi j'ai reçu cette autorité de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, quel message retenir de toute cette lettre, cette longue lettre que Jésus a adressée à l'église de Thyatire? Premièrement, ayons confiance dans le Christ clairvoyant. Alors, ça devrait s'afficher. On peut afficher le texte. Le Christ se présente ici, dans les versets 18 et 19, comme ce qui avait été dit de lui dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Les yeux comme une flamme de feu, pour dire que rien n'échappe à sa vue. Jésus voit tout, même jusqu'aux motivations qui sont derrière nos actes. Et d'ailleurs, on l'a lu au verset 23, il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il voit ce qu'il y a au plus profond de nous. Tout est mis en lumière. Rien ne lui est caché. Il a également les pieds qui sont semblables à du bronze, pour signifier que Jésus est tout puissant. Il incarne le roc, la solidité, la stabilité. Ces deux caractéristiques qui sont rappelées ici attestent que Jésus a tout pouvoir pour juger en pleine connaissance de cause. Et tout ça dit quelque chose d'important quant à l'autorité de Jésus et son parfait discernement pour juger. Notons d'ailleurs que c'est la seule fois dans le livre de l'Apocalypse qu'il est question de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ça s'affiche maintenant. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est la seule fois qu'on le trouve dans le livre. C'est suffisamment singulier pour ne pas le mentionner. Jésus est le Fils de Dieu. Il est revêtu de l'autorité même de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et par conséquent, on ne se comporte pas n'importe comment devant lui. Jésus, le Fils de Dieu, réclame notre obéissance, notre respect. Autre conséquence, tout ce qu'il dit d'une manière générale et tout ce qu'il dit en particulier dans cette lettre mérite qu'on y prenne particulièrement attention. Dans sa clairvoyance, Jésus donc dresse un bilan de son Église qui se trouve ici dans la ville de Thyatire, d'abord avec le verset 19. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. » On a ici une Église qui va de progrès en progrès. C'est ce que suggère cette expression ici, « Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Et cela m'interroge, qu'en est-il de moi, de nous aujourd'hui, sur l'une et ou l'autre de ces points que Jésus souligne comme étant des points forts de cette Église? L'amour, la foi, qu'on peut traduire aussi la fidélité en Dieu, le service, en particulier le service dans un contexte d'hostilité, c'était le cas à Thyatire, c'était le cas dans toutes ces églises auxquelles Jésus s'adresse il y a 2000 ans, dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Est-ce que je peux dire que moi aussi je marche de progrès en progrès, que nous marchons de progrès en progrès? Est-ce que nous persévérons dans le service de Dieu, dans le service pour notre prochain, avec amour, fidèlement? Et puis au verset 20, Jésus soulève un point dont il ne saurait féliciter là pour le coup son Église. « J'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs à commettre l'immoralité sexuelle et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. » Jésus les reprend ici pour leur tolérance. Ils ont laissé faire. Vous savez, cette tolérance qui est particulièrement prônée par notre société aujourd'hui. Il faut être une société qui tolère tout. Et d'ailleurs, nous les chrétiens, nous sommes souvent taxés d'intolérants. Mais Jésus reprend ici cette église parce qu'ils ont laissé faire cette femme Jézabel. Jézabel. Est-ce que ce nom vous évoque quelque chose? Dans l'Ancien Testament, c'était cette fille d'un roi phénicien devenue reine d'Israël de par son mariage avec un certain roi d'Israël, le roi Akab. Akab avait épousé justement Jézabel parce qu'il voulait conclure une alliance avec la nation à côté, phénicienne avec le père de Jézabel, et ce malgré le fait que Dieu avait dit justement de ne pas faire de telles alliances parce qu'elles risquaient de conduire dans la chute, dans le péché. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Jézabel a incité le roi Achab à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je cite deux textes qui vont s'afficher. 1 Roi, chapitre 16, verset 31. « Comme si cela avait été trop peu pour Achab de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. » Ou encore dans 1 Roi, 21, verset 25. « Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Et sa femme Jézabel l'y poussait ou l'y incitait, on peut traduire aussi. Donc Jézabel a incité Achab à participer au culte de Baal, qui était la divinité des Phéniciens. Et ce culte était accompagné de l'immoralité en tout genre, dans les abus, etc., et en particulier aussi la sexualité. Ça a été une période de grand déclin pour le royaume d'Israël. Et comme la Jézabel d'autrefois, la personne dont il est question dans cette lettre à l'église de Thyatire, a répandu un enseignement qui trompait les chrétiens pour les amener à participer au culte de divinité auquel il y avait justement ces immoralités et ces viandes sacrifiées à des idoles. Le texte dit qu'elle enseignait, séduisait. Et c'est assez intéressant, cette association là, des deux verbes, enseigner et séduire. Ça montre qu'il y a des enseignements qui semblent peut-être parfois très bien en apparence, très beaux, séducteurs, bien présentés, bien menés, bien dits. Et quand on les regarde plus en profondeur, en fait, on se rend compte qu'ils éloignent de Dieu et de sa parole. Retenons bien une chose, tout ce qui brille n'est pas d'or. La vigilance est de mise quand il s'agit de discerner tout ce que l'on peut entendre et écouter. Même quand ça semble briller, même quand c'est séduisant. Donc ayons foi dans le Christ clairvoyant qui voit tout, qui sait tout et qui sait repérer là où il y a vraiment l'or et là où il n'y est pas. Deuxièmement, considérons sérieusement l'appel à la repentance, l'appel que le Christ lance à la repentance dans les versets 21 à 23 que je relis. « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne s'est pas repentie de son immoralité sexuelle. » Voici, je vais la jeter sur un lit dans une grande tribulation, elle et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises reconnaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Cette prophétesse, qui nous l'avons compris, se présente sous les traits de la Jézabel de l'Ancien Testament, elle a refusé de se repentir, ici au verset 21, ce qui suggère qu'il y a eu des tentations infructueuses pour gérer la situation, mais ça n'a pas conduit à un changement de comportement. Et par conséquent, Jésus exerce son jugement sur Jézabel elle-même. Elle finira, comme dit le texte ici, sur un lit de souffrance, un lit avec une grande tribulation. Très probablement ici une allusion au lit sur lequel on participait à ces banquets. Il faut se rappeler à l'époque qu'on mangeait sur des sortes de lits là très bas et qui dégénéraient ensuite en débauche. Parce qu'elle s'est vautrée sur le lit de l'immoralité sexuelle et de l'idolâtrie, eh bien le Seigneur la jettera sur un lit de souffrance, de grande tribulation. Jésus s'adresse ensuite, dans la suite du verset 22 et le verset 23, il s'adresse à ses serviteurs qui se sont laissés séduire par les manières et l'enseignement de Jézabel. Et cela montre que même en tant que chrétien, si l'on n'y prête pas garde, on peut parfois emprunter des chemins de traverse et se laisser séduire. Le jugement les visera également, à moins qu'ils ne se repentent, eux aussi. Et le texte dit « à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres », c'est-à-dire les œuvres prônées, enseignées par Jézabel. Elle a montré l'exemple et certains ont suivi. Mais Dieu leur laisse du temps, il est patient. Notre Dieu ne juge pas à la hâte, il donne aussi le temps pour la repentance. Et je lis ce texte dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. C'est un autre contexte ici, mais l'idée est la même. Notre Dieu veut nous conduire à la repentance. La repentance n'est pas une option pour le chrétien. On ne peut pas dire « moi je suis chrétien » avec l'option repentance. Comme si certains pourraient dire « moi j'ai pris une chambre d'hôtel avec l'option all inclusive ». Ça ne marche pas comme ça. Jésus lance un appel ici à la repentance, un appel à toutes les églises, comme on le lit dans le verset 23. Il va s'afficher. « Toutes les églises reconnaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Nous ne pouvons pas nous cacher devant Jésus-Christ. Il connaît notre cœur et nos pensées. Ça nous renvoie aussi à ce qu'on a entendu dans la première partie de ce culte, à veiller à notre cœur. Et c'est cette connaissance de Jésus qui lui permettra de rendre un jugement qui est parfaitement juste. Alors confessons-lui les péchés que nous aurions pu tenter de lui dissimuler, car nous aurons à rendre compte de nos œuvres. Et nous avons parfois tendance à penser que le jugement concernera les non-chrétiens, mais Christ se présente ici aussi comme le juge de son Église. Donc, des chrétiens. Et ça peut paraître un peu paradoxal, mais les deux sont ensemble dans la parole de Dieu. On a d'une part, Dieu ne tiendra pas compte de nos péchés. Il les ensevelit au plus profond de la mer, comme on le lit dans Michée chapitre 7. Et en même temps, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, même les chrétiens. Les deux sont vrais. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, il n'y a aucun doute là-dessus, mais en même temps, nous sommes responsables des actes que nous accomplissons pendant notre vie chrétienne. Pour le dire autrement, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous ne serons pas condamnés pour nos péchés, mais nous serons tenus responsables de nos actes et nous aurons à rendre des comptes. Et si nous nous sommes laissés entraîner dans l'infidélité envers Jésus, dans quelque domaine que ce soit le domaine ici qui est mentionné dans l'église à Thyatire, mais dans quelconque domaine, ne nous endurcissons pas. Nous sommes encore dans le temps de la patience de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est possible d'abandonner notre mauvaise voie, de nous tourner vers Jésus, de lui demander pardon et de conformer notre vie à son enseignement. Considérons sérieusement l'appel de Christ à la repentance. C'est le deuxième point. Et le troisième, ne laissons pas les distractions du monde nous détourner du Christ. Avec les versets 24 et 25. Souvenons-nous de ce que j'ai esquissé dans l'introduction sur ce qu'était le contexte de l'église de Thyatire, des chrétiens qui vivaient là avec toutes ces corporations. Imaginons ce que ça voulait dire et quelle attitude adopter en tant que chrétien qui vit à Thyatire il y a 2000 ans et d'être face à un dilemme. Quitter la corporation pouvait être synonyme de perdre sa place dans la société et donc de ne plus pouvoir commercer, de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, de s'exposer à la faim, à la moquerie et parfois même à la persécution. Et en même temps, demeurer dans la corporation, c'était d'une certaine manière renier Jésus-Christ. C'était s'exposer à des tentations, c'était commettre des péchés en offrant à des divinités étrangères. Les chrétiens de Thyatire étaient vraiment confrontés à un dilemme. Et Jésus s'adresse maintenant, avec ses versets 24 et 25, à ces membres de l'Église qui sont demeurés fidèles. Je relis les versets 24 et 25. « À vous autres qui êtes à Thyatire, vous qui n'avez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Néanmoins, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. » Ça devait être vraiment difficile pour eux, mais Jésus veut les encourager ici. Et il y a quelque chose de ce dilemme que l'on retrouve de nos jours, où nous sommes invités à vivre, nous vivons dans un monde qui a des valeurs très différentes de celles qui sont prônées dans la parole de Dieu. Et nous sommes souvent à contre-courant, je pense particulièrement à des valeurs morales. Par exemple, quand il s'agit de veiller à notre intégrité. Je me souviens quand Laura et moi étions sur le point de signer la vente de notre ancien appartement. Les vendeurs nous ont proposé de mentir au notaire sur le prix réel de la vente pour qu'ils aient moins de frais à payer au notaire. Et puis, bien sûr, si nous étions d'accord, ils nous verseraient la différence sous la table. Et puis, le jour du notaire, le jour de la signature, on signe quelque chose comme quoi on s'engage, on dit « c'est bel et bien là le prix qui a été convenu entre l'acheteur et l'acquéreur, et le vendeur, pardon ». Alors bien sûr, nous leur avons expliqué que non. Et pourquoi nous avons dit non. Et puis là, plus récemment, pour rester dans ce même domaine, mais ça pourrait être d'autres choses, combien de fois dans nos recherches d'un logement ici sur Nîmes, nous avons été confrontés à des magouilles financières, des magouilles de déclaration. Même un agent immobilier qui nous a dit « mais vous verrez, vous pouvez faire ça, personne n'y verra rien ». Il y en a un qui voit tout. On nous encourage à mentir sur des choses. Comment rester intègre dans tout cela? Un autre exemple, quand il s'agit de veiller aux images que l'on regarde. Regardez la place des images dans notre vie. On peut regarder un film et tomber sur des images qui... peut-être n'ont l'air de rien comme ça, mais on s'en abreuve et on oublie souvent le pouvoir des images. Parfois, ce sont des images à caractère clairement violent ou sexuel. Il y a même des films qui font la promotion de tel type d'image. Même certains de ces films ont reçu des récompenses. Un autre exemple, quand il s'agit de veiller à nos fréquentations. Toutes les fréquentations ne sont pas nécessairement bonnes. Je sais qu'il y a des étudiants aussi parmi nous et dans notre cursus d'études, il n'est parfois pas rare qu'il y ait des rencontres entre étudiants, des soirées d'étudiants dont il faut peut-être s'éloigner un peu parce qu'elles peuvent conduire à un certain nombre de tentations. Ce sont des exemples dans une liste qui est loin d'être exhaustive, et ce n'est pas le but d'être exhaustif ici, mais pour nous faire simplement prendre conscience que nous ne sommes jamais bien loin des tentations du monde. Nous vivons à contre-courant dans bien des cas. Et Jézabel et ses disciples ici prétendaient pouvoir se plonger dans ce qu'ils appelaient là les profondeurs de Satan. Profondeur de Satan, et en sortir spirituellement indemne. C'est ce que signifie cette expression ici, les profondeurs de Satan. Ça décrit ici la compréhension, alors bien sûr fausse, selon laquelle il serait possible pour les chrétiens de s'exposer, même d'expérimenter quelque chose du royaume démoniaque, satanique, on peut l'appeler comme on veut, sans pour autant être affecté sur le plan spirituel. On marche sur la tête. C'est un mensonge du diable de penser qu'on peut jouer avec le feu sur le plan spirituel et ne pas se brûler. ne nous exposons pas nous-mêmes à la tentation. Il y en a un qui s'en charge très bien de nous tenter. Ne lui facilitons pas la tâche. Concrètement, comment faire ? Connaissons nos limites. Connaissons nos limites. Nous n'avons pas tous les mêmes limites dans tel ou dans tel domaine. Soyons lucides sur nous-mêmes pour ne pas nous exposer à des tentations où on serait tenté de. Et puis, connaître ses limites, c'est aussi se rappeler que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Ne nous pensons pas plus forts que nous ne le sommes. Donc, connaissons nos limites. Et puis, soyons déterminés à suivre le Christ, lui qui n'a justement pas de limites. Lui qui peut nous apporter une aide, un secours en toutes circonstances. Lui qui a été tenté comme nous, mais sans jamais commettre le péché. Peut-être qu'en disant tout cela, nous nous sentons bien loin de ce qui se vivait dans l'église à Thyatire il y a 2000 ans, avec tout son culte idolâtre, avec sa débauche. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. C'est que même si nous ne sommes pas impliqués dans l'immoralité sexuelle telle qu'elle était vécue à Thyatire, ça ne signifie pas nécessairement que nous sommes innocents du péché de Thyatire. Je m'explique. L'adultère et la débauche sont souvent utilisés dans la Bible de manière symbolique pour désigner l'infidélité spirituelle du peuple de Dieu envers Dieu. Le peuple d'Israël a souvent été accusé d'adultère parce qu'elle a eu des amants avec des divinités étrangères. C'est ce que Akab a fait, par exemple. Alors, dans son cas, ça l'a conduit à l'immoralité sexuelle, mais ça n'a pas toujours été nécessairement le cas. Deux versets pour illustrer cela qui vont s'afficher. En Jérémie 3, versets 1 et 9. « Et toi, Israël, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Par sa criante inconduite, Israël a souillé le pays. Elle a commis adultère avec la pierre et avec le bois, avec des idoles. » Ou encore en Ézéchiel 16, verset 36. Tes trésors ont été répandus et ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes horribles idoles. Deux exemples parmi tant d'autres, et il sera question encore ce mois-ci dans notre étude du prophète Osée de cela, dans les rencontres de quartier dans une semaine. Ce qu'il faut comprendre ici, on peut avancer la diapo suivante, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le peuple de Dieu met en premier dans son cœur d'autres choses que Dieu lui-même, quand il a des idoles, quand il y a donc une infidélité envers Dieu, cette infidélité, elle est comparable à l'infidélité d'un homme envers sa femme ou inversement, d'une femme envers son mari. Une idole, c'est une alternative au vrai Dieu. Mais une alternative au vrai Dieu ne peut être au mieux qu'une contrefaçon, un leurre. Et quand on y réfléchit, beaucoup de choses peuvent devenir une idole dans notre vie. Par exemple, la réussite sociale, la réussite professionnelle, au point parfois de tellement faire pour notre métier qu'on délaisse Dieu ou on délaisse notre propre famille. La prospérité matérielle, la sécurité financière, le sport peut devenir une idole. La sexualité, même quand elle est vécue dans le couple, dans le cadre voulu par Dieu entre un homme et une femme mariés, la sexualité, quand elle se traduit par la recherche de son propre plaisir au détriment du plaisir de notre mari, si on est une femme, femme si on est un mari, ça devient une idole. Même un ministère ou un service dans l'Église peut devenir une idole. Même cela. Comment Dieu pourrait-il tolérer que l'on place des choses qu'il a créées pourtant lui-même, des choses qui relèvent de sa création, qu'on le place lui-même au niveau de ces choses-là ou encore à un rang inférieur ? Ça n'aurait pas de sens. En tant que chrétiens, nous sommes pris entre deux mondes. Nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons au royaume de Dieu, Et en même temps, nous vivons sur la terre avec tout son lot de tentations. Et ce n'est pas toujours facile d'arriver à se détourner des distractions du monde pour s'attacher à Dieu et à sa parole et à ses commandements. La tentation est souvent forte de se conformer au monde. Et nous sommes là ce matin, et peut-être que nous luttons dans notre vie avec un péché récurrent. Nous luttons pour mener une vie qui plaît à Dieu, malgré les pressions qui pèsent sur nous de la part du monde. Nous ne sommes peut-être pas loin du découragement, ou peut-être même que nous sommes découragés en voyant nos échecs ici ou là. Mais Jésus nous dit, « Je ne mets pas sur vous d'autre fardeau. Néanmoins, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. » Jésus ne nous impose pas quelque chose de nouveau. Contrairement à ce que les pharisiens dont on a parlé dans la première partie de ce culte, eux, ils imposaient des choses, des fardeaux au peuple. Et Jésus, avec culot, comme l'a rappelé Adrien tout à l'heure, les a repris pour leur dire « Non, il n'y a rien à ajouter d'autre, il n'y a pas d'autre fardeau. Par contre, ce que je vous ai dit, ma parole, mon enseignement, cela, eh bien, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à mon retour, dit Jésus. Et s'il y a quelque chose pour lequel je dois me repentir, souvenons-nous que Jésus nous accueille dans sa grâce. Ô combien sa grâce est importante. Sa grâce par laquelle il nous pardonne. Sa grâce avec laquelle il veut nous relever. Sa grâce avec laquelle il nous propulse pour continuer. Jésus nous invite à persévérer, à redoubler d'efforts pour dire non devant la tentation, pour lui rester fidèle jusqu'à son retour. Et il nous a d'ailleurs montré un exemple à suivre. Et il nous invite à veiller sur notre cœur, comme nous l'avons lu tout à l'heure aussi dans Marc chapitre 7, à demeurer ferme dans la foi en lui et à ne pas nous laisser distraire par les distractions de ce monde pour nous détourner de la fidélité à Christ, bien au contraire. Enfin, dernier point, cultivons l'espérance de régner et de juger avec le Christ. Voilà. Le texte ici dit au verset 26 qui s'affiche, dit « Ô vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin. » Donc ça, voilà, le vainqueur, c'est justement celui qui garde les œuvres de Jésus, c'est-à-dire celui qui garde les commandements de Jésus, celui qui résiste à la tentation de s'engager dans toutes sortes de compromis ou d'idolâtrie, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit sur le plan théologique ou le plan moral, éthique. Le vainqueur, c'est celui qui ne cède pas aux compromis. Le vainqueur, c'est aussi celui qui se repent. Et la repentance, c'est quelque chose d'important. Ne sous-estimons pas cet appel de Jésus qui lance à toutes les églises à se repentir, à se repentir. Au vainqueur, Jésus promet de donner deux choses. Tout d'abord, le texte va s'afficher au verset 26 et 27, Jésus donnera l'autorité sur les nations. Et on a ici une citation du psaume 2, au verset 7, 8 et 9, un psaume qui parle de Jésus, le Messie, qui a reçu ce pouvoir de faire paître les nations avec une verge de fer. Et ainsi, la promesse qui est donnée dans la lettre de Thyatire, ici, signifie que nous serons associés, nous aussi, au règne de Jésus-Christ et nous participerons à l'exercice de ce jugement sur les nations. L'apôtre Paul le dit dans l'une de ses lettres aussi, que nous jugerons avec le Christ. Dans le contexte ici, les nations désignent l'ensemble des personnes qui auront refusé de reconnaître la seigneurie de Jésus. Deuxième chose que Jésus donnera au vainqueur, je lui donnerai l'étoile du matin. Jésus se présente ici comme, dans la lettre de l'Apocalypse au chapitre 22, verset 16, comme l'étoile brillante du matin. En Apocalypse 22, verset 16. C'est une autre manière de dire que les chrétiens seront là aussi associés au règne de Jésus et participeront à sa gloire. Son règne a commencé à sa résurrection et Jésus, depuis lors, il règne. Alors pour l'heure présente, qu'en est-il des chrétiens ? C'est le monde qui les opprime. Mais viendra un jour où les chrétiens participeront au règne de Christ sur le monde. Cette lettre, comme les six autres que l'on trouve dans ce livre de l'Apocalypse, et on peut avancer un petit peu, voilà, se termine avec ces mots, « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Si le Seigneur nous reprend ce matin, personnellement, sur tel ou tel point, parce que peut-être nous aurions oublié de nous examiner nous-mêmes, oublié de peut-être constater que nous avons toléré telle ou telle chose dans notre vie, parce que nous aurions pris conscience que l'une ou l'autre chose tient à nos yeux une place trop supérieure, trop grande par rapport à Dieu lui-même, au point peut-être d'être devenu une idole. Alors Jésus nous invite, là encore, à revenir à lui. Il nous accueille dans sa grâce et il veut nous pardonner, mais il veut aussi que nous lui demandions pardon, que nous reconnaissions nos fautes, que nous nommions les choses qui n'ont pas été dans notre vie et que nous nous en repentions, c'est-à-dire que nous changions dans notre manière de vivre pour redoubler d'efforts et pour tenir ferme dans une société qui est souvent hostile pour les enfants de Dieu. Amen.